Et c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Forte émotion en Belgique après l'attaque de Liège. Deux policières et un jeune homme ont été tués. Leur assaillant a brièvement pris une personne en otage avant d'être abattu. Un juge antiterroriste a été saisi. Le roi Philippe s'est rendu sur place. Au tir d'obus de mortiers et de roquettes en provenance de Gaza, l'armée israélienne a riposté en frappant plus de 35 cibles appartenant selon elle au Hamas et au djihad islamique. Organiser des élections législatives et présidentielles en Libye le 10 décembre prochain, c'est le défi que se fixent ensemble les quatre responsables libyens réunis à Paris par Emmanuel Macron. Le chef de l'État qualifie cette rencontre d'historique. Les débats sur la réforme ferroviaire débutent au Sénat. Après 2 mois de conflit, les syndicats de cheminots cherchent à maintenir la mobilisation. Il faut savoir arrêter une grève, leur répond le ministre de l'Action publique Gérald Darmanin. Liège est en deuil. Ce matin, un homme a tué 2 policières et un étudiant. Il a également pris une personne en otage avant d'être abattu par la police belge. Le dossier a été confié à un juge d'instruction antiterroriste. Pierre Benazet, vous êtes ce soir à Liège. Que sait-on de l'auteur de cette attaque et de la façon dont il a procédé ?
L'homme s'appelle Benjamin Herman, il a 31 ans, c'est un repris de justice. Il était ce matin à Liège, il se trouvait derrière 2 policières qu'il a filées en quelque sorte, 2 policières de la police de Liège. Il les a attaquées à coups de couteau. Lorsqu'elles ont été affaiblies ou à terre, il s'est emparé de leurs armes de service, des pistolets automatiques. Chacune de ces armes contenait 17 munitions. Il a ensuite tiré sur les 2 femmes qui sont décédées des suites de ces tirs. Il a ensuite tiré sur un véhicule qui était à l'arrêt au feu rouge sur ce boulevard d'Avroy au centre de Liège. Le passager d'une voiture a été touché, il en est mort. Un jeune homme de 22 ans, étudiant instituteur, sa mère a pu s'échapper du véhicule. L'homme a ensuite pris en otage à 15 de mètres de là 2 femmes de service dans un centre scolaire. Il voulait s'en servir comme bouclier humain. Il a finalement décidé de sortir de l'établissement pour affronter la police. Il a tiré sur les policiers, il a blessé 4 d'entre eux, dont un relativement sérieusement.
Pierre, un juge antiterroriste a été saisi. Est-ce qu'on a affaire à un djihadiste ?
On ne sait pas si on peut proprement parler d'un djihadiste. Il est certain en tout cas que pour l'instant, le parquet fédéral a été saisi, c'est-à-dire le parquet qui est responsable des affaires de terrorisme. Il y a des éléments qui tendent à penser qu'il s'agit d'une affaire terroriste, affirme le procureur fédéral. Cet homme de 31 ans, Bernard Herman, était en prison depuis 2003. C'était sa 13e sortie pour réinsertion, des sorties limitées, mais il ne s'est pas représenté à sa prison hier. Il a été donc signalé pour cette affaire. Selon les témoignages d'un de ses anciens codétenus, il se serait effectivement radicalisé en prison.
Merci Pierre Benazet, vous êtes donc à Liège, en Belgique. Le Hamas change de stratégie à Gaza. Depuis le début de la marche du Grand Retour, le 30 mars, plus de 110 personnes ont été tuées par l'armée israélienne. Le mouvement islamiste palestinien semble donc vouloir revenir à la manière forte. Ces derniers jours, il y a eu des tirs, la découverte d'un drone chargé d'explosifs et ce matin, 30 d'obus de mortier ont été tirés en provenance du territoire palestinien. Ils n'ont pas causé de victimes, mais l'armée israélienne a rapidement répliqué, Étienne Monin.
Toute proportion gardée, cet affrontement réveille les souvenirs de la guerre de 2014 et les réflexes de sécurité pour ceux qui vivent à proximité de la bande de Gaza. Les tirs ont commencé à 7h, ils ont visé le secteur sud d'Israël contre la bande de Gaza. Il y a eu de nouvelles alertes dans l'après-midi, la peur s'est diffusée au nord-est. L'armée a compté plus d'une 30aine d'obus de mortier de tirés. Les civils à nouveau doivent leur salut au dôme de fer qui a intercepté la plupart des projectiles. L'un d'entre eux notamment est tombé dans un jardin d'enfants qui était vide. L'armée israélienne a répliqué en début d'après-midi. 35 cibles militaires appartenant au Hamas et au djihad islamique ont été visées sur 7 secteurs. Ce pic de tension arrive après une montée progressive. Elle tombe après un virage stratégique du Hamas amorcé il y a 2 mois avec la marche du retour. Dans cette opération, Israël a perdu la guerre de l'image. Elle a découvert des engins piégés à sa frontière et déjoué plusieurs incursions. En représailles, l'armée a utilisé à plusieurs reprises l'artillerie et l'aviation. 3 hommes du djihad islamique ont été tués dimanche dans un tir de tank. Israël considère que le groupe armé est responsable de l'attaque de ce matin avec la complicité du Hamas.
Par ailleurs, l'armée israélienne a pris le contrôle du bateau de protestataires palestiniens qui avait pris la mer ce matin pour dénoncer le blocus imposé à l'enclave. Les principaux acteurs du conflit libyen prennent des engagements. Ils vont tenter d'organiser des élections le 10 décembre pour sortir le pays du chaos. L'annonce a été faite à l'issue d'une conférence à l'Élysée en présence d'une 20aine de pays et organisations internationales. Emmanuel Macron parle d'une étape clé pour la réconciliation. Olivier Poujade.
Si au moment de la photo de famille, Emmanuel Macron prend le soin de faire approuver oralement le texte par les quatre représentants libyens et le reste de l'Assemblée, c'est parce qu'aucune signature n'apparaît sur le document. Cette réunion est un succès diplomatique, c'est vrai, les acteurs se sont accordés sur la date du 10 décembre pour organiser des élections, mais personne n'est en mesure d'affirmer que cette entente signera la fin des violences en Libye. Le chef de l'État français le reconnaît.
Est-ce qu'il n'y aura plus d'action des milices dans les mois qui viennent en Libye? C'est impossible de vous dire que nous allons l'éradiquer. Mais je pense que la mobilisation collective, le travail conjoint, nous permettra en tout cas de réduire la capacité à faire de certains groupes terroristes ou certaines milices.
De l'espoir aussi concernant les interférences qui ont empêché la Libye de se stabiliser. Des pays voisins ou ayant des connexions, des intérêts en Libye, tous ces acteurs étaient réunis aujourd'hui.
Plus personne ne pourra dire « je ne suis pas d'accord » ou « c'est pas comme ça ». Parce qu'ils étaient là. Ils étaient sur la photo devant vous, je leur ai demandé s'ils avaient une opposition au quasi-mariage des quatre partis qui étaient là, personne n'a parlé.
Les représentants libyens devront maintenant s'entendre avant le 16 septembre sur une loi électorale définissant le rôle et le profil des candidats à la présidence. Est-ce qu'un militaire comme le maréchal Haftar, qui contrôle l'est du pays, pourra se présenter en décembre? Qui dirigera les forces de sécurité réunifiées? Son rival, le premier ministre Sarraj, a son idée sur la question.
Bonjour,
de deux pouvoirs parallèles, un civil et un militaire, ne peut qu'affecter négativement l'État.
Le calendrier politique libyen est fixé, mais l'essentiel des négociations n'a pas encore commencé.
Un nouvel épisode de l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Éric Woerth est mis en examen pour complicité de financement illégal de campagne. L'actuel président de la commission des finances de l'Assemblée était en 2007 trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy. Le virus Ebola continue de se propager en République démocratique du Congo. 52 cas ont été enregistrés dans le nord-ouest du pays et 22 décès déclarés. L'épidémie a commencé début mai à Bikoro, à 600 km de la capitale, Kinshasa, avant de toucher Mbandaka, une ville de plus d'un million d'habitants, ce qui fait craindre le pire dans un pays où Ebola a déjà sévi 9 fois. Une campagne de vaccination a donc été lancée. Bonsoir Valérie Crova.
Bonsoir.
Vous avez rencontré un médecin congolais installé en France et qui porte le surnom de Docteur Ebola.
Oui, il s'appelle Dona Mupapa Kibadi, docteur en médecine. Il était dans sa ville natale de Kikwit quand il a pris en charge des malades atteints d'un virus auquel on a donné le nom d'une rivière du Congo, Ebola, et qui provoque une fièvre hémorragique terrible. C'était en 1995. L'épidémie fera plus d'une centaine de morts. Les malades sont mis en quarantaine à l'hôpital de Kikwit. Dona Mupapa Kibadi les soigne, mais il doit faire face déjà à l'époque à des préjugés et des croyances qui entourent cette maladie.
Il y avait un mystère qui entourait cette épidémie. Et ils croyaient qu'il y avait un médecin blanc qui avait une grosse seringue, ça c'est ce qui s'est raconté dans la ville, qui prélevait les sangs et qui envoyait en Europe. Comme j'étais en scaphandre, les gens ne savaient pas que c'était un Congolais. Le jour où j'ai enlevé ça, j'ai expliqué à la population, puisque nous avions des séances de sensibilisation, je suis allé leur dire que c'était un natif de la région qui était là. Donc n'ayez pas peur, puisque les gens fouillaient, ne voulaient pas venir à l'hôpital.
Et son surnom de Dr Ebola date de cette époque. Il mettra en place un protocole de soins qui a été validé 20 ans plus tard par l'OMS. En 1998, il s'installe en région parisienne où il exerce comme médecin urgentiste. Et c'est depuis la France, sa terre d'exil, qu'il suit les épidémies à répétition dont la dernière s'est déclarée dans le nord-ouest de la RDC.
Le premier cas d'Ebola dans cette région est apparu au mois d'avril. On l'a déclaré le 8 mai. Un mois, c'est beaucoup. Donc, on aurait pu vraiment éviter ça. Aujourd'hui, ça atteint une ville importante, une ville de 1 200 000 habitants. Vous vous rendez compte? Donc, s'ils ne font pas un travail de sensibilisation très, très, très poussé pour atteindre tout le monde, ça ne sera pas circonscrit très rapidement.
Alors en plus de son activité de médecin, Valérie, Docteur Ebola nourrit une autre ambition pour son pays.
Et pas la moindre, puisqu'il veut se présenter lors de la prochaine présidentielle, qui a déjà été reportée à 3 reprises par Joseph Kabila. Elle doit en principe se dérouler à la fin de cette année. Il aura en face de lui d'autres grandes figures de l'opposition congolaise, comme Félix Tshisekedi, le fils de l'opposant historique, ou Moïse Katumbi. Dona Mupapa Kibadi apparaît un peu comme un outsider. Ses soutiens sont essentiellement parmi la diaspora congolaise. Mais comme les autres opposants, il dénonce la volonté du président Kabila de briguer un troisième mandat. Pour l'instant, il ne s'est pas officiellement déclaré, mais des affiches ont été placardées récemment à Kinshasa en faveur de sa candidature.
On a un président élu qui est en fin mandat, qui devrait normalement céder le pouvoir depuis le 20 décembre 2016 et qui ne veut pas partir. Et qui ne choisit même pas des dauphins. Et qui veut encore se représenter alors que la Constitution est claire à son article 70. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Il continue à s'accrocher au pouvoir alors qu'il est illégitime. Cette situation-là crée une instabilité, puisqu'il y a des répressions, des manifestations pacifiques, et il réprime dans le sang.
Convaincu qu'il peut incarner un nouveau leadership, Dr Ebola croit en l'avenir de son pays doté de multiples ressources mais qui ne profite guère à la population. Il compte rentrer chez lui en juillet pour déposer sa candidature. Les Congolais savent que si je n'ai pas eu peur du virus Ebola, je n'aurais pas peur de sauver ce pays, conclut-il.
Merci Valérie. On peut retrouver votre entretien avec Dr Ebola sur franceculture.fr. Au Brésil, la grève des routiers n'a pas été levée malgré l'accord conclu dimanche soir entre le président Temer et certains syndicats de routiers. Aujourd'hui, plusieurs villes ont été ravitaillées en essence et produits frais grâce à l'intervention des forces armées. Mais la situation est loin d'être résolue car la majorité des grévistes ont jugé l'accord de dimanche insuffisant. Or, chaque jour qui passe augmente la facture pour l'économie brésilienne. On retrouve Anne Vigna à Rio de Janeiro.
Ce sont désormais la police fédérale et l'armée qui de nuit escortent les camions-citernes depuis les raffineries. Ce mardi, 10% des stations-service ont de l'essence à Rio de Janeiro et 40% à São Paulo. Mais la situation est d'autant plus précaire que les pétroliers et les employés de Petrobras entrent en grève ce soir pour 72 heures. Dimanche, le président Michel Temer avait pourtant assuré que la situation était réglée après avoir cédé à la majorité des revendications des routiers. Mais plus de 40% d'entre eux sont des travailleurs indépendants qui ne reconnaissent pas les associations qui ont négocié avec le gouvernement à Brasilia. La baisse de 12% du prix du diesel leur semble insuffisante, tout comme les ristournes obtenues sur les péages. Il resterait ce mardi encore près de 500 barrages sur les routes tenus essentiellement par les indépendants. Les villes sont donc très peu approvisionnés, mais aussi les campagnes. La situation est préoccupante dans les élevages industriels. Le manque de rations alimentaires a déjà provoqué la mort de 64 millions de volailles et 1 milliard pourrait connaître le même sort si leur alimentation n'était pas livrée cette semaine. Toute la chaîne agricole est perturbée par la grève et les producteurs de soja, par exemple, n'ont plus d'emplacement où le stocker. La grève aurait déjà coûté 3 milliards d'euros à l'économie brésilienne et pour la première fois, la chute du président Temer était évoqué ce mardi au Congrès.
Anne Vigna à Rio pour France Culture. Les sénateurs débattent à leur tour de la réforme ferroviaire. En commission, les sénateurs ont favorisé le volontariat pour le transfert vers des opérateurs privés et souhaité que les salariés réembauchés dans le groupe public ferroviaire puissent bénéficier à nouveau du statut. Selon le rapporteur de la réforme au Sénat, Gérard Cornu, Les Républicains, il y a donc eu des avancées sociales très très importantes qui devraient contenter l'UNSA et la CFDT. Mais les cheminots ne sont pas tous de cet avis. Le trafic est toujours perturbé et quelques heures avant l'examen du projet de loi au Sénat, plusieurs centaines de cheminots se sont rassemblés devant le palais du Luxembourg à Paris, Kevin Bordereau.
Oui, ils ont même invité des représentants syndicats d'autres pays européens. Avec eux, ils ont rencontré les groupes des sénateurs communistes et socialistes. Objectif, partager leur expérience de l'ouverture à la concurrence dans leur pays. Apprenons l'Allemagne, très souvent prise en exemple par le gouvernement comme un modèle de réussite de ce côté-là. Écoutez ce qu'en dit le docteur Winfried Wolf, il est représentant du syndicat allemand Verdi.
Depuis l'année 2000, donc, les prix ont augmenté nominalement de 50% et en tenant compte de l'inflation de 30%.
De l'autre côté de la Manche, en Angleterre, même son de cloche, explosion des tarifs. Bruno Poncet, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail.
Je ne connais pas un Français qui a envie, pour sa ligne qui ferait 280 km aller-retour, payer 7000 euros par an. Je ne connais pas un Français qui veut ça. Donc là, c'est ce qu'on vient d'entendre. Et on vient d'entendre aussi qu'aujourd'hui, l'État anglais veut renationaliser. Donc à un moment donné, nous, on n'arrive pas à comprendre comment la France, après, en prenant exemple sur les pays étrangers, veuille continuer toujours à cette privatisation, à cette libéralisation du rail, alors qu'on voit que c'est une catastrophe partout.
Sudrail, comme la CGT qui n'attendent pas grand-chose de ces trois jours de débat au Sénat, les grands principes de la réforme, ouverture à la concurrence, fin du statut des cheminots ne devraient pas bouger. En revanche, du côté des syndicats réformistes, CFDT, UNSA, on va surveiller de près les amendements apportés au projet de loi. Didier Aubert est le secrétaire général de la CFDT cheminot.
L'union syndicale, elle n'est pas fissurée, le débat parlementaire n'est pas terminé, le projet... Nous, on a continué à déposer des amendements pour modifier ce projet. Et derrière ça, nous pensons qu'effectivement, c'est le rapport de force qui permet encore d'agir sur le contenu de cette loi. Et on continue dans ce cadre-là.
Pas de sortie de la grève. De toute façon, avant la fin du débat parlementaire pour la CFDT et l'UNSA, la CGT et Sud décideront eux cette semaine s'ils étendent le mouvement au-delà du 28 juin.
Le vote solennel au Sénat est prévu mardi prochain. Le handicap n'est toujours pas assez pris en compte à la télévision. Depuis la loi pour l'égalité des droits et des chances de 2005, pourtant, les chaînes ont des engagements à respecter, à l'écran comme en termes d'accessibilité. Certaines d'entre elles doivent par exemple sous-titrer leurs programmes en fonction de leurs audiences. Mais le bilan dressé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'est pas bon, Maëwen Bordron.
Et notamment en termes de représentativité. L'année dernière, seuls 0,6% des personnes vues à la télévision étaient handicapées. Insuffisant pour Memona Interman Afégé, elle est membre du CSA.
L'incarnation du handicap à la télévision reste très en dessous de la réalité. Franchement, qui dirait que cela est décent ? Certainement pas, et c'est une défaillance de notre système légal certainement, puisque nous n'avons pas les moyens d'obliger les chaînes à mieux représenter les personnes handicapées.
Autre problème, comment comptabiliser le nombre de personnes handicapées représentées à la télévision ? La quantification du CSA est erronée, selon Elisa Rojas du collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation.
Sont comptabilisés, par exemple, pour les fictions, des personnes valides qui font semblant d'être handicapées. Donc, ça pose un problème qu'on a déjà eu l'occasion de voir poser, par exemple, dans les films, où, en fait, les personnages handicapés sont toujours joués par des personnes valides, ce qui pose également un problème de représentation, puisque pour que les personnes vraiment handicapées puissent être vues, il faut déjà qu'elles puissent aussi jouer les rôles qui leur correspondent.
Le rapport du CSA étudie également l'accessibilité des personnes handicapées et là encore, le bilan est mitigé. Toutes les chaînes de télévision qui font plus de 2,5% d'audience ont l'obligation de sous-titrer leurs programmes depuis 2005. C'est le cas de TF1, France Télévisions ou encore M6. Mais les chaînes d'information en continu n'entrent pas dans cette catégorie. Cédric Laurent est le secrétaire général de l'UNISDA, l'Union Nationale pour l'Insertion Sociale des Déficients Auditifs.
Il y a eu un pas qui a été avancé sur ces chaînes d'information continue pour se répartir des créneaux sur la journée pour rendre accessible et le sous-titrage et la langue des signes. Mais nous, on souhaite, en plus de cela, que dès qu'il y a un temps fort démocratique qui fait appel à un ministre important ou au président de la République, de prévoir le même système d'accessibilité.
L'UNISDA appelle également les chaînes de télévision à sous-titrer leurs émissions en replay. Pour l'instant, seules France Télévisions et Arte le font.
Merci Maïwenn Bordron. Et pour en savoir plus sur ce sujet, rendez-vous sur franceculture.fr. Au deuxième jour du procès du bijoutier niçois, accusé d'avoir tué l'un de ses braqueurs, la cour d'assises des Alpes-Maritimes a entendu les témoins de la scène de crime. Et cet après-midi, la sœur du jeune homme tué par Stéphane Turc est venue à la barre. Le compte-rendu d'audience de Florence Turm.
Depuis le début du procès, elles sont trois, toutes jeunes femmes, assises sur le banc des parties civiles. Deux brunes, une blonde, serrées les unes contre les autres, avec tatoué sur un bras, un poignet, le prénom Tony et la date de sa mort. Alexandra Asli, la sœur aînée de la victime, est la première à s'avancer à la barre, très droite, voix ferme. On est une famille hyper soudée, avec des valeurs, des principes, et on nous a salis, traînés dans la boue. Anthony, c'est vrai, poursuit-elle, c'était un peu le rebelle, immature et rêveur, mais il avait des projets. Sa femme avait réussi à le remettre dans un morceau de bon chemin. Il allait être papa, il m'avait dit « tu n'auras plus besoin de venir me voir en prison ». Juste avant sa déposition, le président avait égrené le casier judiciaire d'Anthony Asli, 14 condamnations pour de petits délits malgré ses 19 ans à peine. « Je ne peux pas défendre l'indéfendable », reprend la jeune femme, « je ne suis pas là pour ça, j'aimerais juste que les jurés voient sa photo ». Quelques clichés circulent en silence parmi les membres de la cour. « Vous vous rendez compte que ce n'est pas Monsieur Turc qui est venu chercher votre frère », intervient le président avec douceur. « Oui, mais c'est Monsieur Turc qui l'a tué. Il aurait dû vous laisser faire votre travail et c'est lui qui serait là aujourd'hui. » Son avocat s'avance à son tour, déjà presque un début de plaidoirie. Vous n'êtes pas une partie civile comme une autre, commence Philippe Soucy. Monsieur Turc dit, voilà qui j'ai tué, voilà la famille de qui j'ai tué. Il questionne, qu'attendez-vous de la justice ? Alexandra Asli se redresse, on est dans un état de droit, j'attends qu'il soit condamné. Si mon frère avait été là, il aurait été puni. Il n'est pas victime, conclut-elle sans un regard pour l'accusé, il est meurtrier.
Florence Turmes à la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Le mois de mai a été le mois le plus orageux depuis l'an 2000 et ça n'est pas fini. Le temps restera perturbé demain avec un risque de pluie et de gros orages des Pyrénées aux Alpes jusqu'au Grand Est. Il fera 12 à 20 degrés le matin, de la Manche à la Méditerranée, 18 à 28 l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.